Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Feuilles Vives, 17e. À la fin de l'année dernière, j'ai eu le bonheur d'apprendre qu'un paysan boulanger s'installait près de chez moi. Ce métier, encore rare mais avec le vent en poupe, concentre verticalement la production boulangère de la graine semée à la vente de pain. Le symbole de cette agriculture de proximité dont il nous tient à cœur dans Feuilles Vives de vous présenter les différents représentants du blésois. Une agriculture qui cherche à respecter l'environnement, à revaloriser les paysages et à renouer le lien avec les habitants des territoires qu'elle occupe. Bref, densifier le lien ville-campagne plutôt que l'appauvrir. Xavier Rosé s'est installé il y a un an à la ferme de la Digue sur 18 hectares. C'est à Montaut, aux confins du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire. Avant cela, 8 ans de transport routier, précédé de 8 ans de travail au champ dans l'exploitation céréalière de ses oncles en Bourgogne.
Bon, bah moi j'ai travaillé en tant que salarié, mais j'ai travaillé 8 ans en céréales conventionnelles. Et on voit bien qu'on peut faire ce qu'on veut toute l'année. Quoi. Fin de l'année, on choisit pas le prix à laquelle c'est vendu. Quoi. On arrive à sur de la céréale, on arrive à pallier sur du stockage en essayant de vendre au meilleur moment dans l'année. Quoi. Mais pour avoir vu la compta sur plusieurs années en céréales conventionnelles, on dit les primes, mais les ventes ne couvrent pas les charges de l'exploitation. S'il n'y a pas les primes, l'exploitant il meurt. Quoi. C'est aussi pour ça que moi je suis parti sur ce modèle-là et moi l'idée c'est de vraiment plus avoir besoin des primes, même si pour l'instant c'est faux en installation. Moi je suis en installation aidée, là sans aide à l'installation je pouvais pas m'installer quoi. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin des primes c'est utopique, mais moi je voudrais que mon exploitation puisse fonctionner sans primes. Ouais. Qui, je pense, sont voués à disparaître de toute façon. C'est dommage, ils commencent par les primes bio.
Face à une agriculture conventionnelle en crise, les paysans boulangers font le choix de nager à contre-courant. Des surfaces et des rendements réduits, mais des productions diversifiées et surtout transformées et vendues par l'agriculteur lui-même. En devenant pain ou huile, les matières premières produites sur la ferme gagnent en valeur. S'il n'a jamais vraiment disparu du paysage agricole et artisanal, le paysan boulanger est représentatif de la recherche d'autonomie matérielle, économique et décisionnelle encouragée au sein du mouvement paysan. Semencier, agriculteur, meunier, boulanger, il maîtrise l'intégralité de sa chaîne de production. La journée de Xavier commence à la boulangerie. Son futur atelier, au milieu de ses champs, n'est pas encore tout à fait prêt. Je le retrouve en pleine fournée dans une boulangerie des Grouets à la sortie de Blois en direction de Tours.
Beaucoup de boulangers vont travailler avec de la levure. Moi, j'essaye de travailler un maximum avec les levures naturelles du levain. Moi, l'idée, c'était d'avoir un minimum d'intrants. Donc, c'est pour ça que je travaille aussi. Je tiens pour l'instant à pas mettre de levure et à travailler que sur le vin naturel. Je vois qu'au niveau commerce, c'est pas évident. Ça plaît pas à tout le monde. Le pain, parce que c'est. Sur un pain au levain, même bien levé, bien aéré, il sera toujours plus dense qu'un pain à la levure. Il aura toujours plus de goût. On est dans une société aujourd'hui où le goût, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, il faut que ça passe partout. Et donc, pour que ça passe partout, il faut pas de goût. Quoi. Dès qu'il y a un goût qui est un peu marqué,
l'époque.
Alors que comme tu disais, au départ, je les trouvais très peu acides, en fait, pour des pains au levain.
Ils sont très peu acides, mais ils ont un goût marqué quand même.
Oui.
C'est même... Je pense que chacun a des goûts différents, mais... Je le trouve même à l'opposé, je le trouve... J'ai presque l'impression qu'il est sucré, je le trouve doux. Bon bah moi c'était ce que je cherchais aussi. Si un jour je suis obligé, pour des raisons de débouché, de travailler avec de la levure, j'ai peur de perdre ça, de perdre ce goût-là. Donc voilà, j'ai eu des débuts très compliqués, avec sûrement des clients que je récupérerai jamais. Pour l'instant, je tiens à travailler sans levure. On verra ce que ça donne. À l'usage. Après, j'ai pas le débit d'une boulangerie. J'ai pas la prétention de sortir un pain qui va plaire à tout le monde. Mais sur le peu de quantité que je sors, j'espère trouver suffisamment de gens à qui ça plaît. Moi, je vais tourner. Ouais, c'est vrai que. Ça va pas forcément parler aux gens, parce que quand on parle de pain, on parle de nombre de baguettes. Des baguettes, j'en fais pas. Donc, je vais parler en kilos. Moi, on va dire en rythme de croisière, faudra que je tourne pour rembourser mes emprunts, payer mes charges et sortir un salaire entre 200 et 250 kilos de pain par semaine. Un boulanger traditionnel, mes pains les plus petits, c'est des pains de 500 grammes. Boulanger traditionnel qui va faire de la baguette de 300 grammes. Lui, s'il sort pas sa tonne de pain par semaine, il est cuit.
Du coup, cette espèce de concentration verticale que tu as en étant paysan boulanger, c'est ce qui te permet de gagner ta vie en produisant moins.
Ouais, voilà. Ça me permet de sortir de la valeur ajoutée et. Sur une petite exploitation quoi. Quelqu'un qui vendrait directement le grain sur 18 hectares, il s'en sort pas. Moi l'idée c'est quand même de garder cette dimension là quoi.
Et un boulanger qui sort que 200 kg de pain par semaine, il s'en sort pas non plus.
Non. Non. Ouais, j'ai l'avantage d'avoir un coup de farine moins important qu'un boulanger.
La fournée terminée, Xavier se fait livreur. Dans sa voiture, le pain à peine sorti du four recouvre les fenêtres et le pare-brise d'une épaisse couche de buée. Malgré le froid, c'est donc vitres ouvertes que nous traversons la Loire pour livrer le pain à La Ferme, un magasin de producteurs qui a ouvert récemment au milieu d'une vaste zone commerciale au sud de l'agglomération blésoise.
Est-ce que tu peux me parler peut-être de tes différents circuits de distribution ?
Pour l'instant, c'est on a vite fait le tour. Pour l'instant, j'ai le magasin, quelques amis qui me commandent en direct. Famille, connaissance. Et puis du coup la map là qui devrait démarrer normalement. Si tout se passe bien fin du mois. Là, normalement la distribution du 26 janvier.
Quand tu compares ton travail de production et ta commercialisation telle qu'elle est maintenant et telle qu'elle sera en rythme de croisière entre guillemets. Qu'est-ce qui va changer quoi dans les prochaines années?
Alors. Si tout se passe bien, si vraiment tout se passe bien,
Une distribution à la ferme un soir, le magasin de producteurs, la map d'Orchèze si j'arrive à être régulier, parce que bon, c'est vrai que là les débuts ça on a choqué certains, on va dire. Bon, c'est vrai que je suis pas arrivé avec du pain terrible. Moi, par rapport à ma surface, à la quantité de blé que je peux sortir potentiellement, faudra pas que je cherche ailleurs. Quoi.
Ça peut suffire.
Ah bah c'est... Ouais, voilà, c'est pas que ça peut suffire, c'est que au bout d'un moment, j'aurai pas assez de blé pour fournir. Quoi.
Après la livraison, Xavier se rend sur sa ferme à Montaut. Avant de nous emmener faire le tour de ses champs, il revient sur son choix de l'agriculture biologique. Pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de s'autonomiser à l'égard de l'industrie phytosanitaire et de mieux s'intégrer dans son environnement naturel et social.
Pour moi, aujourd'hui, la bio, c'est une nécessité parce qu'on est allé trop loin dans la chimie. Alors que oui, effectivement, quand les désherbants sont sortis, bon bah il y a une année, ouais, t'es envahi, tu utilises un désherbant. Ouais. Aujourd'hui, et sur une céréale conventionnelle, c'est 3-4 désherbants à l'année. Systématiquement. Plus les rattrapages. Quand il y a un loupé. Donc. Je pense que déjà, économiquement, d'un point de vue de l'agriculteur, c'est pas viable. Écologiquement, c'est un désastre. Et puis socialement, voilà. Le voisin, il voit bien passer avec le pulvé, machin. Ça aide pas à être accepté dans la société, quoi. C'est
peut-être aussi le fait que cette mécanisation et cette utilisation d'intrants, elles fonctionnent que sur des grandes exploitations qui vont essayer d'augmenter les rendements, de produire en circuit long. Et donc finalement, le lien avec la population locale va se couper aussi. Quoi. Il y a plus moins d'échanges entre la population locale et les agriculteurs. Les habitants d'une commune ne connaissent plus les agriculteurs qui habitent sur leur ferme, sur leur commune.
Ah bah oui, mais c'est sûr. Hein.
Aussi parce que les circuits commerciaux se rallongent et que les exploitations s'agrandissent et que les agriculteurs disparaissent. Ah bah... Et finalement, le rôle social de ces fermes, qui pouvaient autrefois être des lieux de sociabilité, des lieux de commerce, des lieux de...
Des lieux d'embauche. Avant-guerre ou juste après-guerre. Il y avait des salariés agricoles, il y avait des fermes qui avaient des salariés à l'année, il y avait des salariés qui tournaient de ferme en ferme mais qui avaient du boulot toute l'année. C'était vivant, hein, mais c'est pas que au niveau des fermes, hein, le monde rural était beaucoup plus vivant qu'il n'est aujourd'hui.
D'abord, tu es vraiment au cœur du problème.
Même si, il faut...
Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux que ça parle tout de suite. J'ai vraiment besoin
Le monde rural est loin d'être mort, hein, même si souvent.
Isabelle,
ça.
Yabou.
Y a rien d'achère.
L'alchimie. Eh ben oui. Où est-ce que feignant Dieu? Bon Dieu, là le printemps qui s'amène. Va falloir retourner au champ. Labourer, sargler toute la semaine. Bon Dieu, le printemps c'est fatigant. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Quand le printemps vient tirer la ridelle, tout le monde au champ jusqu'au coucher. Oh ouais. Isabelle, faut que je ferre le cheval. Amène l'enclume. Non, pas celle-là, la grosse. Le printemps, on dit que ça sent la rose, le lilas et puis le jasmin. Pour moi, le printemps, ça sent autre chose, puisqu'on sort la tonne à purin. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Le printemps fait gonfler les mamelles, Ces ailes des vaches qu'il faut tirer. Oh, ouais, ouais. Isabelle, sors les deux bœufs que je les compte. Eh ben oui, où est-ce que feignante alors au printemps, dit que les gamines à se mettre des robes claires à pompons. Je la vois, Isabelle en mousseline, en train de curer l'eau à cochon. Fini de faire la cour aux fumelles, les soirs d'hiver à la veillée. Il n'y a plus de mâle, il n'y a plus de fumelles, quand le charançon il se met dans le blé. Ouh là, yé. C'est bien la catastrophe, ça. Ouh. Isabelle, pousse un peu le tracteur. Je suis embourbé. Eh ben oui, où est-ce que notre dégueu de feignante? Le blé jauni, le printemps se termine, arrive le repos de la Saint-Jean. Les gars vont courir, les gamines, ils vont bien se faire des choses, les malounettes. On va faire la cour aux fumelles, puisque la Saint-Jean est revenue. Viens-t'en par là, mon Isabelle, on va rattraper le temps perdu. Eh ben oui! Oh, cette feignante, alors oui!
Là, il y a 3 hectares et demi, verger compris. Ça, c'est sur Monteau. Après, tout le reste, c'est de l'autre côté. Donc là, passer la route, on est sur Mélan. Bah, en gros, après le rang de pommier que j'ai laissé, là, c'est quand j'ai? C'est le 37. Alors j'ai 18 hectares qui sont c'est groupé, hein, 3 hectares et demi là, et là, le reste est là. Hein, donc là, bah, on est en limite, on est sur le coteau, on est en haut du coteau du Val de Cis. Donc là, bah, on arrive sur la Gâtine Tourangelle. Hein. Pleine assez ouverte pour sur le début encore un petit peu vallonneux, donc de la culture de plein champ et puis bah, des restes de vignes, hein, parce que là c'est le Touraine Mélan, donc maintenant c'est le domaine Cocteau en fait qu'a quasiment toutes les vignes qu'on voit. Il y en a un. Ouais, on les voit même pas, mais sinon après c'est Pironneau là sur Manteau. Mais viticulteurs, il n'y en a plus tant que ça là sur le secteur. C'est les occasions qui se sont présentées comme ça. Hein. Il y a eu trois cessations en viti sur Manteau là en peu de temps. Enfin Manteau-Mélan. Et puis bon bah lui il a le débit derrière, hein, donc. Il a raison d'augmenter la surface. Hein. Enfin, moi, on va dire depuis 2003 que j'ai commencé, que j'ai fait mes études agricoles, moi j'ai toujours vu ça comme ça. Hein, les fermes ont une tendance à s'agrandir, et puis bah, quand on voit toutes les stats, c'est depuis après-guerre, c'est que ça, hein, c'est que des fermes de plus en plus grosses. Par contre, depuis une dizaine d'années, on va dire, et un retour des petites exploitations avec des circuits courts, avec le développement des AMAP et tout. On commence à retrouver des petites exploitations maraîchères, même en céréales, je dois être quand même dans les plus petits. Mais je désespère pas que ça suive le mouvement.
Mais faire tourner une petite exploitation en bio est un véritable défi agronomique et entrepreneurial. Première exigence du bio, établir une rotation des cultures. En effet, les plantes d'une même famille botanique ont souvent les mêmes maladies, les mêmes ravageurs et les mêmes besoins nutritifs. En mettant le plus d'années possible entre deux cultures identiques ou proches, on réduit par là même les risques de ravages et les besoins en fertilisation. Chez Xavier, par exemple, la culture principale est le blé pour la fabrication du pain. Mais impossible de produire du blé sur toute sa surface chaque année. Une fois moissonné, une parcelle ne doit pas revoir de blé avant plusieurs années. Un intervalle que Xavier cherche à mettre à profit en cultivant des plantes qu'il peut valoriser par ailleurs. Le colza et le tournesol seront ainsi transformés en huile sur la ferme pour être vendus en circuit court. L'orge, le lupin, la févrole vont enrichir le sol et améliorer sa structure, tandis que leurs graines vont nourrir les brebis laitières d'une ferme voisine. Pain, huile, nourriture animale et bientôt des porcs, Xavier nous explique son système.
Ouais, on va dire, moi la base, c'est le blé, c'est le pain. De par cette production-là, je fais une rotation. Donc j'ai d'autres cultures que le blé. Que je vais valoriser en huile. Donc en huile, je vais avoir des sous-produits, je vais avoir des tourteaux qui sont très intéressants pour l'élevage laitier. Donc qui est la bergerie de la Corbinière qui élève des brebis laitières et qui fait de la transformation fromagère. J'ai le lupin orge, donc ça part en grains pour elle, la févrole, pareil, qui part en grains, du coup moi sous les vergers je fais du pâturage, après j'aurai l'engraissement de porc se fera ici, mais ça va être on va dire la grosse partie de qui va aller pour l'engraissement, donc ça va être maison et le sérum, le petit lait de la transformation fromagère.
Donc le donc déchet de la transformation fromagère et le déchet de la transformation
meunière. Ouais. Et puis bah, une partie de tourteau, je pense, parce que les brebis mangeront pas tout. Tout ce qui est quart de triage. Donc ça c'est pareil, ça va être les porcs qui vont le valoriser. Et puis les porcs, du coup, d'être en engraissement plein air, mais ils n'auront pas le même parc tous les ans. Moi, je vais tourner sur les parcs, donc ça va me permettre d'engraisser les parcs aussi, d'engraisser le sol. Je fais deux pains, un pain qui utilise du lait de brebis, un pain qui utilise de la tome de brebis. Même si c'est plusieurs exploitations, au final, c'est un système. Je voulais une petite exploitation, je voulais faire. J'ai toujours aimé. Tant que je peux faire moi-même, je le fais et je le fais pas faire. Donc. Et ça, pour pouvoir faire ça, faut une petite exploitation. La culture, je peux le faire, je le fais. La farine, je peux le faire, je le fais. La vente, c'est dans mes cordes. Le pain, bah j'ai appris, du coup je le fais. Après, bah au bout d'un moment, on arrive à une limite de temps. Donc c'est pour ça, une exploitation plus grande, ça devient irréalisable. Plus petit, c'est pas viable. Parce que bon, l'idée c'est quand même d'en vivre. Et voilà, non, c'est... Ouais, de toute façon, c'est de... Et de pas faire la même chose tous les ans et la même chose toute l'année, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, quoi. Moi, dans ma façon de voir les choses, j'ai préféré avoir du matériel avec du petit débit, mais tout faire sur place, quoi. Ça me permet de tout faire à mesure. Après, socialement, c'est pas évident, hein, parce que du coup, on... Ça va qu'il y a la vente, quoi, parce que sinon, on bouge plus de la ferme.
Juste que l'objectif, c'est ça, c'est de trouver un équilibre entre travailler dehors avec le sol, travailler de ses mains pour transformer et finalement aller au contact des gens pour vendre.
Oui, oui, c'est... la vente directe, c'est un métier qui tient plus de la passion que vraiment du métier. Et du coup, la vente directe permet de faire partager sa passion, quoi.
Oui, c'est presque quelque chose qui permet finalement de valoriser son activité d'agriculteur et de boulanger et de fabricant d'huile et de producteur de cochons et de etc.
Ouais, c'est...
Autant qu'une partie du boulot, quoi. C'est ce qui fait que tout le reste vaut la peine de le faire.
Ouais. Quoi. Ah bah oui, c'est... Et puis bon, c'est... Ça permet aussi de communiquer... La vente directe, elle permet de communiquer sur ce qu'on fait, pas que dans le sens faire partager sa passion, mais aussi d'expliquer pourquoi je suis en bio, pourquoi je veux une exploitation à petite échelle, pourquoi... Et voilà, et puis espérer aussi un peu déclencher quelque chose chez d'autres gens, pas forcément à faire la même chose, mais à montrer que c'est possible.
Les paysans boulangers sont ainsi devenus le symbole de ces nouveaux modèles agricoles à surface plus petite, à rendement moindre, mais où la production est valorisée au maximum. Diversification, vente directe et transformation à la ferme sont ainsi des outils qui permettent à l'agriculteur de rompre la monotonie du travail des champs tout en se rémunérant correctement. Son objectif, réduire sa dépendance à l'égard des aides distribuées par les pouvoirs publics, des produits phytosanitaires vendus par l'industrie agrochimique, des prix fixés par la grande distribution et les marchés financiers. Ces méthodes vont à rebours du modèle dominant qui repose sur des objectifs de spécialisation des productions et de maximisation des rendements. Les résultats de ce modèle agricole sont connus. Destruction des paysages, dégâts écologiques, dégradation des conditions de vie des agriculteurs, rupture entre eux et le reste de la société. À ce cercle vicieux correspond un cercle vertueux. Les exploitations diversifiées de taille réduite et qui pratiquent la vente directe redeviennent des pôles de commerce, éventuellement d'embauche, de tourisme et donc de sociabilité rurale. Source de beauté paysagère, de dynamisme économique, de liens sociaux et de produits de qualité, le travail de l'exploitant est de nouveau valorisé par les habitants. Choisir un modèle de production dans quelque domaine que ce soit, c'est aussi choisir un mode de gestion et d'aménagement de l'espace, un mode d'organisation de la société. Les immenses étendues en monoculture, les sommets de coteaux privatisés derrière des clôtures ou des tuyas de plusieurs mètres, les entrées de villages étouffées sur des kilomètres par l'urbanisation linéaire, ces paysages trop bien connus de nos contrées sont la conséquence directe de nos choix en matière de production, de consommation et d'habitat. On ne changera pas les premiers sans changer les seconds. Réécoutez ce reportage en podcast dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Vous pourrez également nous retrouver en direct le dimanche 18 février de 9 à 14 h. Nous serons à l'auberge de la Buinotte à Chambon-sur-Cisse pour une émission spéciale sur le rôle des commerces, des acteurs associatifs et des élus dans le dynamisme des bourgs ruraux. Vous pourrez nous écouter sur place, sur studiozef.fr et bien sûr sur la fréquence 91.10. A bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mélie, viens d'en voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute là, elle fait... Oh,